Quand j'ai eu des échos Pinterest par la communauté en fait des blogueurs, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser. Sur Pinterest, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur son référencement. Alors que peut-être que sur Instagram, on sera plus davantage à travailler sur comment créer une communauté, comment dialoguer avec des personnes. Pinterest joue le rôle finalement de seconde vitrine de son contenu. Et donc c'est comme ça qu'il va falloir considérer Pinterest, c'est comment je peux multiplier en fait la visibilité, augmenter la visibilité de mon contenu que j'ai actuellement.
Vous êtes en train d'écouter La Cohorte, le podcast des freelances passionnés, mais paumés. Et moi, je suis Marine, une freelance accro à son mode de vie et qui adore discuter avec d'autres freelances. D'ailleurs, je suis convaincue que si on unit nos forces, on peut accélérer le développement de nos petites entreprises et s'épanouir encore plus. Alors je vous donne rendez-vous un jeudi sur deux pour décortiquer les stratégies de freelance qui ont trouvé des réponses originales à des questions qu'on se pose tous. Pour tout vous dire, jusqu'à ce que je discute avec Cécilia, que vous venez d'entendre, j'étais complètement à côté de la plaque en ce qui concerne Pinterest. Mon idée initiale, c'était de vous proposer un épisode sur le thème « Comment prospecter sur Pinterest ?». Ça me paraissait top d'enchaîner ainsi avec l'épisode précédent. Vous vous rappelez, on a parlé avec Charis de prospection sur Instagram. Sauf qu'en réalité, Pinterest, ce n'est pas la plateforme la plus adaptée pour identifier des clients potentiels et commencer à discuter avec eux. En revanche, Pinterest, c'est le top du top pour attirer plus de monde vers nos contenus. Encore faut-il savoir comment fonctionne ce réseau, qui le fréquente et de quoi on y parle. Donc, si vous aussi vous avez une image un peu floue de Pinterest, vous avez de la chance. Car Cécilia, mon invitée d'aujourd'hui, va vous apporter toute la lumière dont vous avez besoin. Cécilia a découvert Pinterest quand elle bloguait sur le voyage. Elle a vite perçu le potentiel de ce réseau social et elle a fini par en faire son métier. Cécilia est community manager spécialisée dans Pinterest. Dans son interview, en plus de nous faire faire le tour du propriétaire, elle nous explique quel profil de freelance devrait sérieusement envisager d'investir du temps et de l'énergie sur Pinterest, comment Pinterest peut nous aider à développer nos boîtes, par quoi commencer et quels objectifs se fixer. Vos oreilles frétillent d'impatience? Alors, on attaque! Cécilia, j'ai vu que tu avais dit dans un article de blog que ton ennemi numéro un, c'était la dispersion. Je connais peu Pinterest, mais pour moi, c'est impossible d'y faire un tour sans m'y disperser et y passer beaucoup plus de temps que prévu. Alors toi, comment tu fais pour garder le contrôle?
Je dirais que c'est pas évident. Honnêtement, je te mentirais si j'arrivais à 100% rester concentrée sur ma tâche principale. En fait, au fil du temps, je me suis rendu compte de ça. J'essaie de canaliser mon travail, ce flot d'images qui arrive tout le temps devant mes yeux, toutes les idées que je peux avoir.
Dans le précédent épisode avec Charis, on a parlé d'Instagram, un autre réseau où le visuel prime. Quels sont les points communs et les principales différences entre ces deux plateformes?
Donc les points communs, comme tu viens de le dire, c'est l'aspect visuel, donc les images et les vidéos qui sont là avant tout. Pinterest et Instagram utilisent vraiment tous les deux des images à la place des mots. Ils ont tous les deux des légendes au niveau des images. Ils n'ont pas vraiment le même rôle, mais ils ont tous les deux cet aspect légende. D'ailleurs, sur Pinterest, on appelle ça la pin description, la description de l'épingle. Et aussi, pour l'anecdote, qu'est-ce qu'ils partagent aussi en commun? C'est sa date d'anniversaire. Donc, ils sont sortis au même moment, en 2010. Ça, c'est aussi à retenir. Et je pense que c'est aussi ça qui apporte des confusions, en fait, parce que ce sont deux plateformes qui sont sorties en même temps, avec justement cet aspect très visuel. Ensuite, les différences. Pour moi, c'est la notion du temps. En fait, sur Instagram, on y est pour parler du présent ou de l'avenir, mais très très proche. Alors que sur Pinterest, on y est vraiment pour prévoir l'avenir, organiser ses projets. Cette notion de temps est vraiment différente, on va se projeter vers le futur. Et Instagram, on y est plus pour se connecter avec des personnes. Alors que Pinterest, on est là plutôt pour se connecter avec des idées, pour trouver des solutions à ses besoins. Donc c'est vraiment une approche qui est complètement différente. Pinterest ne propose pas de filtre sur les photos, ni sur les vidéos, alors que c'est le cas sur Instagram. La durabilité du contenu est totalement différente sur Pinterest, puisqu'on est plutôt sur 105 jours en moyenne de la durée de vie d'une épingle. Et aussi, une nuance à prendre en compte, c'est que sur Pinterest, les personnes qui publient, ce sont davantage les marques que des personnes lambda, j'ai envie de dire, puisque 75% du contenu sont créés par des marques. Alors que sur Instagram, c'est un peu tout le monde.
Et tu m'as dit quand on préparait l'interview que Pinterest, c'était avant tout un moteur de recherche plus qu'un réseau social. Est-ce que tu pourrais creuser ça aussi?
C'est vrai qu'il y a l'aspect visuel sur Pinterest comme sur Instagram, mais c'est vraiment la partie émergente de l'iceberg. qu'il y a vraiment d'autres facteurs qui comptent sur Pinterest, notamment le référencement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver les bons mots-clés que son prospect peut être amené à taper sur Pinterest pour que bah, il tombe finalement sur notre contenu. Donc c'est vraiment un mixte entre Google et Instagram.
Très concrètement, qu'est-ce que ça change pour les marques et les entrepreneurs qui veulent intégrer cette plateforme dans leur marketing ?
Sur Pinterest, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur son référencement. Alors peut-être que sur Instagram, on sera plus davantage à travailler sur comment créer une communauté, comment dialoguer avec des personnes, comment je peux interagir avec la messagerie. Pinterest, c'est davantage un outil personnel que bah, l'utilisateur utilisait pour ses projets. Et donc ça, faut le comprendre de cette façon, c'est que le contenu qui est sur Pinterest, on est là pour en fait aider les personnes dans leurs projets. Donc c'est complètement différent en fait par rapport à d'autres plateformes.
Est-ce que selon toi, tous les freelances devraient mettre en place une stratégie Pinterest ?
Pinterest peut ne pas correspondre à tout le monde. Alors, il peut correspondre par exemple aux infopreneurs, pour des personnes qui vendent des formations, des packages, des produits ou des services qui sont disponibles sur leur site internet. Ça, c'est pertinent. Il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu, ça sera aussi la notion de création de contenu. On l'a vu sur Pinterest, il faut quand même publier des épingles, et donc sans ça, ça sera très compliqué d'animer son compte Pinterest. Donc, on a aussi un profil peut-être ne sera moins intéressé par Pinterest. C'est le fait de vouloir toucher à tout prix des personnes qui sont localisées sur un secteur, sur un territoire particulier. Pinterest touche en fait tout le monde et toute la France entière. Donc si on souhaite plutôt toucher une partie de la France, c'est peut-être moins stratégique.
Et tu m'as dit aussi que Pinterest, ça pouvait bien correspondre à des personnes qui n'aimaient pas trop se montrer.
Oui, c'est vrai, parce que on est moins sur ce côté de créateur de contenu, on est plutôt sur la notion du contenu. Donc on a envie de savoir, oui, quel est le résultat, qu'est-ce que ça va m'apporter si je vois ce visuel, si je vais sur le site internet de la personne, moins sur la personne qui le propose. En fait, vraiment, c'est ça. Tout à l'heure, je disais, c'est Instagram, on se connecte avec des personnes, et bien sûr, son contenu. Mais sur Pinterest, c'est vraiment la porte d'entrée, c'est le contenu. Donc on est moins amené à se montrer.
Dans mon souvenir, Pinterest, on parlait principalement de décoration, de mariage, de beauté. Est-ce que ça a évolué, ça ?
C'est vrai que, historiquement, la décoration, la mode, la food, c'est des thèmes qui marchent très bien sur Pinterest, mais d'autres thématiques marchent bien sur Pinterest. Par exemple, je pense à la parentalité, à la santé, à la fitness. On peut penser aussi à l'automobile. Et récemment, Pinterest propose un rapport sur les nouvelles tendances en 2021. Et par exemple, j'ai vu l'entrepreneuriat et le nouveau do it yourself. Donc, il y a vraiment des personnes qui recherchent des choses sur comment entreprendre, qu'est-ce que je dois faire, comment créer mon site internet, etc.
Tu nous l'as dit, Pinterest, c'est pas le réseau idéal pour identifier des clients et entamer une discussion avec eux. Alors, comment Pinterest peut nous aider à développer nos entreprises ?
Pinterest joue le rôle finalement de seconde vitrine de son contenu. Et donc, c'est comme ça qu'il va falloir considérer Pinterest, c'est comment je peux augmenter la visibilité de mon contenu que j'ai actuellement. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va arriver à toucher une nouvelle audience, à la fidéliser.
Si je comprends bien, Pinterest, ça ramène du trafic sur nos supports, c'est ça ?
Exactement. Il faut avoir un site internet opérationnel pour bien utiliser Pinterest, parce que il faut savoir que sur Pinterest, sur une épingle, on peut avoir un lien qui redirige vers son site. Donc c'est-à-dire que vraiment la personne peut passer à l'action, consulter directement votre support. Contrairement à d'autres plateformes où en fait le fait d'utiliser un lien externe vers un autre site, c'est pénalisant. Sur Pinterest, c'est pas le cas. Au contraire, on veut que la personne passe à l'action, aille plus loin dans ses recherches.
Ok, donc la base pour pouvoir se lancer sur Pinterest, c'est d'avoir un site internet. Est-ce que selon toi, il y a d'autres prérequis?
Oui, un site internet responsive, c'est parfait, puisque les personnes consultent Pinterest depuis un mobile. Bien sûr, il faut bien vérifier que sa cible utilise Pinterest. Est-ce que aujourd'hui, vos prospects utilisent Pinterest pour s'inspirer, pour trouver des nouvelles choses autour de votre thématique? Tout à l'heure, on en a parlé, c'est connaître les thématiques les plus populaires de la plateforme. Et ensuite, on peut, je dirais que le prérequis vraiment, c'est avoir une stratégie de contenu. Même si votre contenu est hébergé sur YouTube ou d'autres sites internet, c'est primordial en fait si on veut animer un compte Pinterest.
Pour préparer l'interview, j'ai passé une bonne heure sur Pinterest et j'ai vu qu'il y avait plein de façons différentes d'utiliser cette plateforme. Par quoi faut-il commencer selon toi ?
Je vais évoquer 5 premières actions. Donc la première chose, c'est créer un profil business. On peut avoir soit un profil lambda ou soit un profil business. Donc on peut passer en mode business. Ensuite, on va optimiser ce profil. Donc ça sera d'y mettre son nom d'utilisateur, mais aussi d'y insérer quelques mots-clés au niveau de la description de son profil. Commencer par cartographier son contenu et comment on va pouvoir l'épingler à l'avenir. C'est intéressant de voir quel contenu vous avez aujourd'hui et comment je peux l'épingler sur Pinterest, comment je vais pouvoir lui donner vie en fait, en pensant aussi au code de la plateforme, comment je vais pouvoir m'adapter. Ensuite, on passe à la création des tableaux, c'est-à-dire la rédaction des titres, la rédaction des descriptions. Et la cinquième action, ça serait de réfléchir sur la création de modèles, des templates en fait, pour ces visuels. C'est-à-dire qu'au lieu à chaque fois de réfléchir à comment je vais créer tel visuel pour tel article ou tel podcast, l'idée c'est de repartir à chaque fois sur une base. et d'adapter aussi ces modèles selon votre type de contenu, que ce soit par exemple si vous avez un article de blog, si vous avez des guides, si vous avez des vidéos ou des podcasts. Et enfin, vraiment, faut vraiment pas passer à côté cette étape. Je sais qu'elle est un peu technique et c'est un peu embêtant parfois. C'est de la configuration de son site pour vraiment encourager les personnes qui visitent déjà votre site internet à épingler votre contenu.
Quels sont les indicateurs à suivre pour savoir si ce qu'on fait sur Pinterest, ça marche ou pas?
En fait, il y a deux axes principaux à surveiller. Donc, le premier, c'est ce qui se rapporte finalement à la visibilité. Donc, on va regarder les impressions, la portée, l'audience engagée avec son contenu. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est lié à son site internet. Donc, on va regarder vraiment le trafic. Qu'est-ce qui marche d'ailleurs comme contenu sur son site internet et qui est intéressant aussi pour Pinterest. On va regarder aussi le nombre de leads, le nombre de nouveaux inscrits sur sa liste d'emails et le nombre de prestations vendues, bien évidemment.
Impression, portée, tu peux détailler un tout petit peu plus ce que ça veut dire?
Donc on a les impressions, c'est le nombre de fois en fait où l'épingle a été vue sur Pinterest, que ce soit une seconde ou 15 secondes. On va avoir l'audience engagée avec son contenu, donc ça nous permet de savoir combien de personnes ont interagi avec l'épingle, que ce soit un clic sur le lien, que ce soit l'ouverture en fait de l'épingle, ça peut être aussi une réaction si c'est une épingle vidéo. Donc c'est ce type de données.
Encore une fois, pour avoir des points de repère, si on se met dans la peau de freelance qui n'ont pas forcément des moyens de folie et qui passent un temps, disons, limité sur leur stratégie Pinterest, ça peut être quoi mes objectifs en termes d'impression et d'audience?
Sur Pinterest, tu peux avoir 2 abonnés, mais tu peux avoir 1500 impressions le premier jour, et puis 3000, et puis dans une semaine, tu vas rebaisser à 1000, par exemple. Donc, c'est hyper difficile de se fixer des objectifs. Moi, je les compte plutôt en termes de trafic, se dire, faut que Pinterest, ça me représente, en rapport avec mes efforts, 200 clics par semaine, admettons.
Quand tu dis 200 clics, c'est 200 clics sur mon site?
Oui.
Sur l'article lié à l'épingle, c'est ça?
Alors, soit tu peux calculer par rapport à un article, mais le mieux, c'est de le regarder de façon générale, voir combien de trafic me rapporte Pinterest.
Si je comprends bien, donc pour se développer sur Pinterest, il faut travailler sa bio. Enfin, ça, c'est plutôt l'investissement de départ, mais en rythme de croisière, donc ça veut dire de la création de visuel, la description, le titre. Et combien de temps il faut consacrer au minimum pour toi là-dessus par semaine?
Ce qui est indispensable, c'est finalement la création de contenu. Donc moi, je l'englobe dans tout, en fait. Je compte mon temps en temps de création de contenu par semaine. C'est-à-dire que quand je vais publier un article, donc j'essaie de publier un article par semaine, ça sera un article plus la création du visuel, plus la mise en ligne, la rédaction de la newsletter, les épingles à créer. Et je prends à peu près entre une journée, voire une journée et demie, selon le type de contenu à produire. Je fais vraiment tout en même temps parce que tant que tu y es, tu fais tout en même temps, tu fais la rédaction, t'es vraiment dans le travail et tu t'occupes de la création et la programmation en même temps. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille.
Et toi, comment t'as découvert Pinterest?
À vrai dire, à titre personnel, j'ai toujours utilisé Pinterest pour trouver des tutos autour du do-it-yourself, parce que je suis quelqu'un d'assez créatif et j'aime bien tout ce qui est activité manuelle. Mais à vrai dire, quand est-ce que je me suis intéressée d'un point de vue business, on va dire? Il y a quelques années maintenant, en fait, je tenais un blog de voyage qui accueillait jusqu'à 30 000 visiteurs par mois. Quand j'ai eu des échos de Pinterest par la communauté en fait des blogueurs, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça me plaisait beaucoup plus qu'Instagram par exemple, et que surtout Facebook au niveau de la portée organique, c'était catastrophique. Donc fallait trouver quelque chose pour continuer à drainer du trafic sur mon blog. Et donc c'est de là en fait que je suis partie sur Pinterest.
Et à ce moment-là, tu faisais quoi comme boulot?
J'étais consultante dans le développement durable, dans le tourisme.
À cette époque, tu t'es tout de suite dit « Ok, Pinterest a un potentiel de folie, je vais créer un business autour de cette plateforme. »
Pas tout à fait, non. C'est venu un peu avec le temps. En fait, j'ai démissionné, je suis partie pendant 2 ans en Amérique du Sud et en revenant, je me suis mis encore plus à fond sur Pinterest. Je cherchais en fait un job dans la communication et je savais pas encore exactement quel poste. Et en fait, je me suis dit « Bah, pourquoi pas faire ça ?» En fait, je voyais très peu de postes autour de Pinterest. Je me suis dit « Bah, je vais me créer mon propre poste, je vais faire ça, ça me plaît vraiment. » Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de créer mon métier, consultante Pinterest.
Et comment tu t'es formée?
Déjà en autodidacte, comme j'ai pu l'évoquer sur mon blog, en testant, c'est un peu mon labo. Et ensuite, en suivant des formations, surtout des créatrices de contenu américaines sur le sujet. Ensuite, c'est de la veille continuelle, aussi bien du côté de Pinterest que d'autres ressources dans les social media.
Maintenant, la question de la fin. Est-ce que tu pourrais me parler de ton dernier kiff de freelance? Donc, il y a un moment, il n'y a pas longtemps, où tu t'es dit, c'est quand même cool d'être freelance. J'avais pas ça quand j'étais salariée.
Mon dernier kiff, c'est quand j'ai pu accompagner en fait une créatrice de contenu sur la thématique cuisine. Et pour moi, c'est toujours un kiff en fait de contribuer aux projets qui sont vraiment chers en fait à des personnes qui les passionnent et qui moi aussi me passionnent tout autant. Et ça, c'était vraiment un gros kiff. Mais généralement, ce que je remarque, c'est lorsque je partage mes connaissances, c'est ça qui me fait ah ouais, c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente de faire ça. Je suis contente de partager ce que je sais. Là, par exemple, sur la mise en ligne de ma formation, c'est vraiment c'est un kiff.
Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous saviez déjà tout ça sur Pinterest? Est-ce que vous pensez que Pinterest est pertinent pour votre activité? Allez, ne soyez pas timide, dites-moi ce que tout cela vous inspire en m'envoyant un mail à hello@lacohorte.fr ou un message sur Instagram @lacohorte.podcast. Et si vous avez des questions, je vous recommande de vite me les envoyer pour que je puisse y répondre à la prochaine newsletter. Voici ce que je retiens de cette chouette conversation avec Cécilia. Primo, j'ai enfin découvert que Pinterest était l'allié des créateurs de contenu et qu'on pouvait y aborder plein de thématiques. J'en suis même au stade où je me demande si la cohorte n'y aurait pas sa place. Deuxio, avant d'investir sur un réseau social, il faut évidemment s'assurer que nos cibles fréquentent les lieux et que nous aussi, on aime y passer du temps. Donc, si vous avez tendance à vous emballer dès qu'une nouvelle plateforme sort, attendez un peu avant de vous lancer dessus à titre pro. Tertio, comme l'a très bien expliqué Cécilia, sur Pinterest, on fait du référencement. La base pour démarrer, c'est donc aussi d'avoir bien bossé sur ces mots-clés. Pour les curieuses et les curieux qui veulent en savoir plus sur Cécilia et sur sa vision de l'entrepreneuriat, filez sur le site du podcast, lacohorte.fr, et abonnez-vous à la newsletter. Dans la prochaine édition, je partagerai la deuxième partie de l'interview de Cécilia. Dans ce petit bout de conversation, elle raconte notamment comment, à cause d'un orage, elle a cru perdre une cliente. Dans cette new news, il y aura aussi une sélection de contenus et d'idées pour vous aider à développer vos business et à gagner en sérénité. Dans le prochain épisode, on parlera de TikTok avec Justine. J'ai appris des tonnes de trucs grâce à cette conversation, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et d'ici là, surtout, restez libres.